Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Prendre une place et prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le texte du jour de la prédication qui sera dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, et nous lirons les versets 4 à 14, donc la fin du livre. Donc Cantique des Cantiques 8, verset 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillée sous le pommier, là même où ta mère t'a conçue, là où te conçut celle qui t'a enfantée. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts, ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Qu'un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous disposerons sur elle une planche de cèdre. Je suis une muraille, et mes seins en sont comme les tours. Aussi ai-je été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 pièces d'argent. Mon vignoble à moi, je l'ai devant moi. À toi, Salomon, les 1000 pièces, dont 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis sont attentifs à ta voix. Fais-la-moi entendre. Prends la fuite, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle et au faon des biches sur les monts des aromates. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'étincelle, un feu ne s'allumera jamais. De même, dans notre écoute de la parole de Dieu, sans l'étincelle du Saint-Esprit, notre écoute de la parole de Dieu sera sans compréhension. La compréhension ne brûlera pas. Nous avons besoin du feu de Dieu pour être purifiés par lui et être chaud pour le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous arrivons aujourd'hui à la 7e prédication sur le livre biblique inspiré du Saint-Esprit intitulé « Le Cantique des Cantiques ». Nous arrivons, on pourrait dire, au sommet de la présentation de l'amour conjugal, ce qui en fait sa gloire, sa force et sa beauté. Alors, au milieu du livre, nous étions arrivés à l'entrée dans la vie conjugale avec sa découverte enivrante, qui en était le sommet de sa structure concentrique. On avait vu qu'il y avait une structure concentrique. Et puis dans la structure qui est plutôt en suivant, ben c'est maintenant qu'on arrive à un sommet. Le livre du Cantique des Cantiques nous indique le fondement, la base sur laquelle l'amour conjugal peut durer et devenir toujours plus solide. Et dans les livres de sagesse, nous trouvons régulièrement une conclusion, une clé de compréhension en fin de livre. En fait, dans les livres de sagesse, nous trouvons régulièrement une conclusion ou une clé de compréhension en fin de livre. Pour Job, qui est un livre de sagesse, la fin du livre nous permet de comprendre tout ce qui s'y est passé avant et nous donne les éléments solides de la parole de Dieu lui-même comme clé sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Pour l'Ecclésiaste, c'est même le dernier verset qui nous donne la compréhension alors que tout au long du livre, il était dit que tout était « ruach » ou souffle, ou vanité, ou passager. Et les deux derniers versets nous disent ceci dans Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et le Cantique des Cantiques, qui est aussi un livre de sagesse, a aussi un point fort vers la fin du livre. Et nous allons particulièrement nous pencher ce matin sur les versets 6 et 7 du chapitre 8 qu'on a déjà entendu, que je vais lire maintenant de nouveau, qui dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts, ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. » Mais avant de nous plonger dans le texte du jour, comme à chaque prédication de cette série, on va se rappeler quelques éléments clés pour que ceux qui arrivent dans le livre maintenant aient aussi les mêmes bases d'interprétation que nous avons utilisées. Alors, je pourrais vous les demander, maintenant vous pourriez me les dire. Hein. Le premier élément, c'est que ce texte est un chant d'amour oriental. Ce n'est pas une description historique ou une prophétie. C'est un type de poésie, de sagesse écrite sous forme d'un chant. Et dans ce chant d'amour, nous entendons deux personnes qui s'aiment. Salomon et sa première épouse, à qui l'on donne le prénom féminin de Salomon, la Sulamite. Et ils nous chantent et nous font vivre leur amour avec parfois un cœur ou une voix qui se fait entendre. Ensuite, nous y voyons aussi des éléments utiles pour réfléchir à la vie de couple, s'y préparer, la vivre, l'encourager, et même pour les célibataires et ceux qui, un jour, le vivront, et sont de toute façon, on est tous de toute façon aux côtés de personnes qui le vivent. Quatrièmement, ce texte est aussi un type, une figure, une image qui pointe vers une relation entre Christ et l'Église, entre Dieu et nous. Et enfin, nous avons distingué trois parties principales dans ce livre. La première partie qui était l'amour pendant les fiançailles, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Nous y avions vu l'éveil de l'amour et l'engagement de l'amour. Ensuite, la deuxième partie qui est le mariage, jusqu'à 5.1. Et nous avons vu cela en une prédication intitulée « L'entrée dans l'amour ». Et la troisième partie qui est la vie commune des bien-aimés, où nous avons déjà vu la synchronisation de l'amour, la délectation de l'amour la dernière fois, et nous terminons aujourd'hui par le fondement de l'amour. Voilà, on a posé ces choses que vous avez déjà entendues. Et dans ce dernier passage du Cantique, j'y vois une structure concentrique, comme une cible, avec des réponses en des textes qui entourent le centre. Tout d'abord, nous avons le verset 4 et les versets 13 et 14 qui se répondent. Et ça sera notre premier point que j'appelle un réveil qui ne finit pas. C'est énigmatique. Hein. Ben voilà, faudra écouter. Ensuite, le verset 5 et le verset 8 à 12 qui se répondent. Et ce sera notre deuxième point que j'ai appelé les souvenirs. Les souvenirs. Et nous terminerons au centre de la cible avec les versets 6 et 7, qui sera notre troisième point, que j'ai simplement intitulé « Le fondement de l'amour ». Donc commençons par notre première partie, avec ces deux parties, un réveil qui ne finit pas. Et pour nous plonger dans cette première partie, je vais garder la bonne habitude de vous paraphraser ce texte. Hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout facile, il faut y entrer. Et puis là, je vous lis une paraphrase, donc ce n'est pas la Bible ce que je vous lis, c'est simplement une compréhension qu'on peut en avoir. Hein. Paraphrase. Donc, verset 4, c'est elle qui chante, et on l'a vu la dernière fois. « Le désir est tellement fort et inarrêtable que je veux rappeler à ceux qui ne sont pas mariés qu'il ne faut pas réveiller le désir avant l'heure. » Et ensuite, la paraphrase du verset 13 et 14 du chapitre 8, d'abord c'est lui qui chante. « Toi qui es dans mon jardin, qui es dans notre jardin, les autres aiment t'entendre, mais j'ai besoin de t'entendre pour moi tout seul. » Et elle chante, oui, tu as raison, fuyons tout ce qui nous empêche d'être ensemble, de tout ce qui nous empêche d'être ensemble, et viens sur les monts de l'amour. C'est la troisième fois que nous voyons ce que j'ai appelé le bouton pause. Vous vous rappelez le bouton pause ? C'est ne réveillez pas, le bouton pause. Oh, comme c'est la troisième fois qu'on le voit, je ne vais pas et revenir dessus pour les compréhensions et l'application qui devraient être maintenant claires. La fin du livre souligne qu'une fois réveillé, cela ne s'arrête plus. Alors, je dois vous dire, honnêtement, enfin, je cherche de toute façon toujours à être honnête, mais je ne sais pas pourquoi on dit ça. Je dois vous dire qu'en fait, la fin du livre m'a fait transpirer. Parce que comment c'est possible de s'arrêter sur une fuite ? Prends la fuite. Et un jour, j'ai compris que le langage utilisé par la compagne poussait son bien-aimé à ne pas fuir d'elle, mais avec elle. Ça m'a aidé à comprendre. Et le langage des gazelles, des fans, des biches rappelle ce qui était dit avant chaque fois qu'il était dit de ne pas réveiller l'amour. Chaque fois, il y avait ces langages-là. Les deux fois, c'était au moment où le désir était au plus fort. On se souvient au début des cantiques, hein, le désir au plus fort. C'était avant le mariage. Au plus fort, après, ne réveillez pas. Après, de nouveau le dire au plus fort, ne réveillez pas. Puis ensuite, ici au chapitre 8, eh bien, nous voyons que ne réveillez pas ne suit pas un moment de désir fort qu'elle ne peut pas vivre. Ça suit un moment fort qu'elle a vécu et qu'elle continue à vivre et qui fait partie de la vie commune, hein, ici, de la passion du couple. Les gazelles et les fans des biches ne sont plus mentionnés à ce moment-là parce que le désir passionné peut être vécu. Mais parler des gazelles, des fans et des biches sur les monts des aromates, c'est en fait une invitation à stimuler le désir de vivre l'amour ensemble. Ce qui fait que le livre se termine sur un désir d'amour qui ramène le couple dans son jardin et amène une impression d'un amour perpétuel qui recommence à n'en plus finir. Donc parler des gazelles et des fans et des biches sur le mont des aromates, c'est en fait une invitation à stimuler le désir de vivre l'amour ensemble. Ce qui fait que le livre se termine sur un désir d'amour qui ramène le couple dans son jardin et amène une impression d'un amour perpétuel qui recommence à ne plus finir. Un peu comme ces chansons, je n'ai pas réussi à retrouver dans ma tête. J'avais quand j'étais petit une chanson qu'on chantait, elle ne pouvait jamais la finir en fait. Mais bon, vous me la direz peut-être après le culte pour que je m'en souvienne. Mais je sais que dès qu'on commençait, il n'y a plus de fin, on ne pouvait pas s'arrêter, parce que la phrase ne s'arrêtait jamais, en fait. Enfin bon. Mais c'est un petit peu ça, ici. Hein, on a vu toutes sortes d'éléments de la relation de couple dans ce livre du Cantique, et puis ça continue, en fait. Prends la fuite, mon bien-aimé. Donc, sois semblable à la gazelle au fond des biches sur les monts des aromates. Car l'amour, une fois réveillé et vécu sainement, nourri selon Dieu, ne s'arrête plus jusqu'à ce que la mort sépare les époux. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant d'ouvrir la vanne et ne rien précipiter, car le mariage est une affaire sérieuse et les désirs sexuels puissants. Or, quelques réflexions par rapport au couple. Pour la dernière fois de cette série, je ne peux que encourager les jeunes à ne pas entrer dans une relation ou ouvrir la vanne de ses sentiments avant d'être dans une relation sérieuse avec une personne que Dieu agrée s'il vous lui appartenez. Et ce n'est qu'après l'alliance que les vannes peuvent être complètement ouvertes et plus jamais fermées. Et pour les couples, l'amour ne s'arrête pas à un certain âge. Il ne s'arrête qu'à la mort de l'un ou de l'autre. Et jusque-là, des sujets de la vie commune des cantiques, du cantique des cantiques que nous avons vu, les trois dernières prédications, eh bien, continueront à vivre. Il y aura des besoins de synchronisation, il y aura des déserts, on le voit ici, on ressortira des déserts, etc. On en parlera encore un peu. Et quelques réflexions pour notre relation spirituelle. Une fois entré dans l'amour du Christ, il n'y a plus de fin. C'est continuel. Une fois entré dans l'amour du Christ, il n'y a plus de fin. Or, s'il n'y a pas besoin de se retenir avec Christ dans ce cas, il faut par contre calculer le coût. Ce sera lui le roi de notre vie. Donc, une fois entré dans l'amour de Christ, il n'y a plus de fin. Et s'il n'y a pas besoin de se retenir dans ce cas, il faut par contre calculer le coût. Ce sera lui le roi de notre vie. N'enseignons pas un évangile facile. Viens à Christ, il te donne tout ce que tu veux. Viens à Christ, il comblera ce que tu as besoin, c'est vrai, et il sera ton roi. Et tu devras lui être soumis. Et lui être soumis est bon, parce qu'il demande toujours des bonnes choses. C'est un amour dans lequel Jésus nous invite à toujours vivre des moments intimes avec lui. Est-ce que nous répondons avec autant d'ardeur que lui ? Et ma prière, c'est qu'il nous remplisse de cet amour fidèle, bienveillant et persévérant envers lui. Après avoir dit aux filles de Jérusalem de ne pas réveiller l'amour, c'est comme si la Sulamite se souvenait du temps du réveil de cet amour. Et nous arrivons au deuxième point, les souvenirs. Et pour nous plonger dans cette deuxième partie, ben je vais de nouveau paraphraser alors déjà le verset 5 que vous avez dans vos Bibles. Et voilà comment je le paraphrase. Qui traverse les épreuves trouvant appui sur son bien-aimé? Donc ça, c'est un cœur qui chante, le cœur qui chante. Puis ensuite, elle chante. « Je me souviens du réveil de notre amour. Tu es aussi venu au monde pour moi et notre amour est aussi enfanté dans la douleur. » Et la paraphrase de 8 à 12, de nouveau, le cœur qui chante. « Pour les filles qui ne sont pas encore en âge de se marier, nous allons les protéger, encourageant celles qui se gardent pour leur futur mari et intervenant pour celles qui n'ont pas de retenue. » Et elle chante « Je ne me suis donné à personne, j'apporte la paix et je peux me donner à Salomon qui est mon roi. » Au chapitre 3, au verset 4, la compagne avait saisi son bien-aimé et ne voulait plus le lâcher jusqu'au mariage. Vous vous souvenez? Elle s'était agrippée à lui une fois qu'elle l'avait retrouvé, là, s'était agrippée à lui, elle ne voulait plus le lâcher. Peut-être que vous vous souvenez de ça. Ici, nous ne voyons plus une amoureuse qui s'accroche quasiment désespérée par la puissance de la passion de l'amour qui se réveille. Non, nous voyons une épouse qui est proche de son bien-aimé et qui trouve un appui en lui. Nous ne voyons plus une amoureuse qui s'accroche quasiment désespérée par la puissance de la passion de l'amour qui se réveille. Nous voyons ici une épouse qui est proche de son bien-aimé et qui trouve un appui en lui. C'est un tableau en fait rempli de tendresse où chacun peut se souvenir de tous les déserts déjà traversés ensemble et à chaque fois la montée du désert rappelle qu'il y a un bout à chaque tunnel, même si parfois il est long et sombre. La sortie du désert, c'est aussi l'entrée dans le pays promis qui, ici-bas, dans la famille, n'est pas un lieu de prélassement. Il faut combattre le péché, il faut cultiver et prendre soin du bétail, mais c'est un pays découlant de lait et de miel, contrairement au désert qui est un lieu de privation et de rudesse. Le verset 5 et 8 à 12 nous parlent de souvenirs. La Sulamite se souvient du réveil sous le pommier qui symbolise le réveil de l'amour. Elle n'est pas avec un homme avec qui il ne s'est jamais rien passé. Il y a eu un réveil de l'amour. Et il y a eu un départ dans la relation, se rappelle-t-elle, de manière pensive. Puis quand on pense, après, toutes sortes de choses qui arrivent, là, tout en pensant à la conception, à l'enfantement de son bien-aimé que Dieu a donné à la vie pour elle et aussi, elle est aussi venue au monde pour lui et les enfants qu'ils ont peut-être ici déjà. Et au verset 8, ces souvenirs sont ranimés par le cœur qui chante et parle de la petite sœur qui est protégée quand elle se fait remarquer par des prétendants qui ne cherchent que les plaisirs charnels. Alors, si elle a une muraille, c'est-à-dire si elle se garde pour son futur mari, on l'encourage par des paroles qui la rendent plus belle. Et si elle est une porte, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à tout prétendant qui ne cherche que le flirt, on la retient, on l'avertit avec des paroles de protection qui l'aident à être plus ferme. Et la Sulamite, en fait, elle se souvient, elle a aussi été cette petite sœur. Elle était une muraille. Elle n'a laissé personne s'approcher d'elle, ce qui lui a permis de vivre le réveil sous le pommier, sans regret, sans mauvaise conscience, sans honte et trouvant la paix. La Sulamite a aussi été cette petite sœur. Elle était une muraille. Elle n'a laissé personne s'approcher d'elle, ce qui lui a permis de vivre le réveil sous le pommier, sans regret, sans mauvaise conscience, sans honte et trouvant la paix. Or, quelques réflexions qu'on peut prendre pour le couple. Ceux qui cultivent leur relation de couple en parlant ensemble, en ne cachant rien, en cherchant toujours à vivre la réconciliation, seront des couples qui montent du désert appuyés l'un sur l'autre. Ce n'est pas le premier ni le dernier désert. Ils savent que leur relation a commencé une fois, ils s'en souviennent. Et ils ne reviendront jamais à ce moment de leur vie. Le commencement, on n'y revient jamais. Ils ont grandi en maturité et sont conscients qu'il y a des saisons dans la vie. Comme il n'est pas possible de revenir en arrière, il est bon de se réjouir des merveilles de chaque saison. se réjouir des merveilles de chaque saison. Or, on pouvait le faire peut-être en se préparant, en sachant ce qui est beau dans chacune de ces saisons et les défis qui accompagnent chacune de ces saisons. Il y a des avantages avant le mariage. Il faut certes se garder, mais où il y a une grande liberté de découverte du monde, de temps de formation, de temps de service. Et si vous êtes dans ce temps-là, eh bien réjouissez-vous de ce temps-là. Les joies et les avantages des jeunes mariés qui n'ont pas à vivre comme s'ils étaient plus jeunes et pas non plus comme s'ils avaient une responsabilité familiale. Ne cherchons pas à vivre à un autre moment que nous sommes. Puis connaître les grâces lorsque nous avons une famille avec des enfants, la joie, la fierté de transmettre, assumer des responsabilités et la relation nourrie avec son épouse qui est plus forte. Et si nous n'avons pas d'enfants, la joie de transmettre autrement. Et les joies des plus âgés, avec les petits-enfants et son épouse, avec qui des centaines de prières ont été exaucées et de nombreux déserts traversés, s'appuyant l'un sur l'autre. Si certains éléments ne sont pas nourris, il est essentiel de s'arrêter, de vérifier de quoi il s'agit et saisir en Christ ce que nous avons besoin pour réparer ou progresser en regardant vers l'avenir. Parce que se souvenir, hein, comme elle se souvient ici, il assume la mythe, se souvenir en espérant revenir en arrière et ne voir que les aspects négatifs de notre situation actuelle, c'est vivre dans un défaitisme constant. Revenir en arrière n'est pas possible. Même si une personne se remarie avec un conjoint de 20 ans de moins que elle ou que lui, cela ne le fera pas revenir en arrière. Le changement de contexte ne change rien. Le changement de contexte ne change rien, car le mal est dans le cœur. Le changement de contexte ne change rien, car le mal est dans le cœur, et il ressortira de toute façon, même si un petit moment sous le charme de la nouveauté, il semble avoir disparu. Parfois, sous le charme de la nouveauté, tout ça semble disparu. Mais c'est un mal sournois et terrible. Il s'agit de l'horrible péché du mécontentement. L'horrible péché du mécontentement. Dieu nous ordonne quelque chose de bien meilleur. Et quand je disais que quand Dieu nous donne des ordres, eh bien c'est quelque chose de bon. Il nous ordonne le contentement. Mais c'est bon le contentement. Vous avez déjà été content? Vous êtes comment quand vous êtes content? Vous êtes mal. Vous êtes triste. Vous êtes tellement... C'est tellement lourd. C'est lourd à porter le contentement. Mais non, pas du tout. Lorsque nous sommes dans le contentement, nous avons de la joie, nous sommes dans la paix. Et ça, c'est un don de Dieu. Donc Dieu nous donne quelque chose de bien meilleur, le contentement. Le mécontentement, un cœur mécontent, va nous amener dans des situations terribles. Ça serait mieux si... Ça, c'est le mécontentement. La Sulamite, même en pensant ce qu'elle a traversé, est contente de ce qu'elle vit. Elle peut raconter qu'elle est une muraille dont les seins sont comme des tours. Elle peut dire qu'elle a été celle qui trouve la paix. Elle s'est donnée librement à Salomon et a même été généreuse avec ceux qui gardent le fruit. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 12. Et pour notre relation spirituelle, pour ceux qui ont rencontré leur bien-aimé Jésus-Christ et qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, vous souvenez-vous du réveil sous le pommier? C'est là que nous avons été spirituellement conçus, que nous avons été enfantés. Oui, certains ne se souviennent pas de la date exacte. Bon, j'ai une question. Qui se souvient de sa naissance? Je ne parle pas de ce qu'on vous a dit, hein. Mais j'aimerais vous dire une chose aussi, c'est que tous ceux qui sont nés, à un moment donné, deviennent conscients qu'ils sont vivants. Que ce soit après 2 minutes ou après 2 ans, ça ne change rien. Ils sont vivants et ils le savent. Ils en sont conscients. Quelle grâce de savoir aussi que les frères et sœurs prennent soin du jeune converti afin qu'il se préserve uniquement pour le bien-aimé qui va venir pour le jour des noces. Être une muraille, c'est garder son cœur attaché à Jésus-Christ. Et les frères et sœurs plus mûrs vont y bâtir des créneaux d'argent de paroles encourageantes. Être une porte, c'est s'ouvrir à toutes sortes de fausses croyances et les frères et sœurs plus mûrs vont disposer une planche de cèdre pour protéger par des paroles aimables d'avertissement. Ainsi, lorsque notre Salomon céleste, à qui nous appartenons et à qui tous apportent adoration, comme tout le monde lui donnait 1000 pièces d'argent, lorsqu'il apparaîtra, nous pourrons librement lui apporter notre adoration et être à ses yeux celui et celle qui trouve la paix, comme la Sulamite. Ainsi, lorsque notre Salomon céleste, à qui nous appartenons, à qui nous apporterons l'adoration, enfin, qui tous apporteront l'adoration, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, nous pourrons, nous, librement, lui apporter notre adoration et être à ses yeux celui et celle qui trouve la paix. Nous monterons du désert appuyés sur notre bien-aimé qui a un amour indéfectible, un amour jaloux, un amour passionné, un amour indestructible, un amour inestimable. Et c'est justement ce que nous allons voir dans notre troisième point. Le fondement de l'amour, les versets 6 et 7. Et pour nous plonger dans cette dernière partie, eh bien, je vais paraphraser ces deux versets, nous allons aussi y revenir tout à l'heure, qui dit ceci, « Je suis à toi, grave-le dans ton cœur. » Notre amour est exclusif, brûlant, il vient de Dieu. Rien ne peut arrêter, ni même acheter cet amour. Nous voici au cœur de la cible. Nous prendrons donc un petit peu de temps pour saisir plusieurs éléments importants dans ce texte. C'est un amour qui vient de Dieu, qui est le fondement de tout amour. L'amour qui vient de Dieu est le fondement de tout amour. Et donc la question à se poser envers notre conjoint n'est pas premièrement « est-ce que je l'aime ?» mais plutôt « est-ce que je vais puiser dans l'amour de Dieu pour aimer mon conjoint malgré toutes les épreuves et les difficultés de la vie ?» C'est ça la question. Puisque je viens de dire que l'amour qui vient de Dieu est le fondement de tout amour. Donc la question que j'ai à me poser, ce n'est pas « est-ce que j'aime mon conjoint ?» Ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est « est-ce que je vais puiser dans l'amour de Dieu pour aimer mon conjoint malgré toutes les épreuves et les difficultés de la vie ?» Et nous trouvons plusieurs symboles importants dans ce texte ici. Je vous les cite, puis ensuite on va un tout petit peu les voir ensemble. Le premier, c'est un seau. Un seau. Pas un seau d'eau, pas un seau, voilà, un seau. Ok. Qui représente l'amour indéfectible. Ensuite, on parle de la mort ici, qui parle d'un amour jaloux qui engloutit tout. On parle aussi d'un feu, qui parle d'un amour passionné. On parle de l'eau ici, l'eau qui vient intervenir et qui nous manifeste un amour indestructible. Puis on parle même des biens par la suite pour parler d'un amour inestimable. Donc reprenons un petit peu ces quelques éléments pour les méditer. Donc verset 6, je vais un peu suivre le texte ici. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Un sceau sur ton cœur, un sceau sur ton bras. Un sceau, c'est un cachet pour signer. Et à l'époque, souvent, on le portait autour du cou, pour l'avoir à portée de main, pour pouvoir signer s'il y avait besoin. Et lors du mariage, le mari donnait à son épouse un sceau pour sceller en leur nom. Un peu comme, alors c'est une illustration, comme lui donner une carte bancaire pour le compte commun. C'est ça. Le sceau est un moyen d'authentifier, de sécuriser, de valider, de protéger pour empêcher toute falsification. Le sceau est un moyen d'authentifier, de sécuriser, de valider, de protéger pour empêcher toute falsification. En fait, un document scellé ne pouvait être ouvert que par la personne autorisée. C'est pour ça qu'il était scellé, pour qu'on soit sûr que c'est la personne autorisée qui allait l'ouvrir. C'est une exclusivité. Alors la Sulamite ici, dans ce texte, elle veut être authentifiée comme l'épouse exclusive de son bien-aimé. Elle veut être authentifiée comme l'épouse exclusive de son bien-aimé. Alors, à deux endroits, dans son cœur, et c'est en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans son cœur, qui est en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, et sur son bras, qui est en lien avec tout ce qu'il fait extérieurement. Elle veut une sécurité d'un amour sûr, mettant tout en œuvre pour sa protection, un amour valide, en cherchant à renouveler constamment, un amour protecteur contre toute tentative d'intrusion. Or, quelques liens avec le mariage, L'alliance du mariage n'est pas un jeu que l'on joue pour voir si l'on va gagner ou si l'on va perdre. Non, l'alliance du mariage est un engagement dans lequel on s'investit. Et si les deux conjoints, c'est les deux, ce n'en est pas seulement un, si les deux conjoints s'investissent sans mettre de pression sur l'autre, je peux vous garantir que chacun s'épanouira. L'amour conjugal est un sceau qui marque l'exclusivité et l'authenticité. Et à chaque situation, une petite porte peut être ouverte pour enlever cette exclusivité, courir à la croix, demander pardon à Dieu et prier avec votre conjoint. Tout, même s'il y a des petites choses. Vous savez, même moi, quand je préparais cette prédication, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à identifier la source, mais j'ai senti que j'avais des tendances à souhaiter avoir des pensées impures. J'ai prié Dieu. J'ai demandé de me pardonner, de me délivrer. Et j'ai prié avec mon épouse en lui demandant pardon d'avoir eu cette tendance. Et ainsi, j'ai été libéré de cela. Parce que Marlise est le sceau de mon cœur et sur mon bras. Et je veux rester dans cette exclusivité authentifiée. Et elle est aussi également marquée par mon sceau. Par rapport à notre relation avec Christ, le souverain sacrificateur avait le nom des 12 tribus sur le cœur lorsqu'il avait ses habits sacerdotaux. On voit ça dans Exode 28. C'était déjà une image de ce que Jésus, le souverain sacrificateur, allait faire. Pour ceux qui sont en Christ, en prenant notre place sur la croix, Jésus a marqué de son sang le sceau de notre salut. D'ailleurs, il est dit dans 1 Corinthiens 1, 22, « Il nous a aussi marqué de son sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Nous sommes liés avec Jésus-Christ, c'est authentifié, c'est scellé. Après le sceau, la Sulamite poursuit avec verset 6 toujours, « Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts. » Alors, l'amour correctement nourri est fort et il est jaloux. Ouais, mais bon, vous allez me dire, mais attends, Tim, la jalousie, c'est un péché. Bon, alors définissons de quoi nous parlons. La jalousie en lien avec l'envie, la convoitise de ce que l'autre possède, la jalousie en lien avec la rivalité parce que l'autre a une position que l'on aimerait. En fait, le dépit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce que l'autre a obtenu ou possède, cette jalousie-là, c'est un péché. Et il faut s'en repentir. Ça, c'est clair. Il faut le confesser, s'en détourner, et par la repentance, saisir ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire son pardon, et nous réjouir de ce que les autres obtiennent et possèdent. C'est ça l'antidote, hein ? La jalousie de ce que les autres ont, c'est se réjouir de ce que les autres ont. Par contre, la jalousie de l'exclusivité, ne pouvant pas supporter qu'une tierce personne entre dans l'amour conjugal, ce n'est pas un péché, c'est une marque d'un amour véritable. La jalousie de l'exclusivité, ne pouvant pas supporter qu'une tierce personne entre dans l'amour conjugal, ce n'est pas un péché, c'est une marque d'amour véritable. Est-ce que vous connaissez un antonyme à jalousie ? Bon, antonyme, ça veut dire le contraire. Il me semble qu'un des meilleurs antonymes, c'est le désintéressement. C'est-à-dire que je ne suis pas jaloux de ce que je suis désintéressé par rapport à ce que l'autre a, etc. Alors, on comprend que c'est une bonne chose quand c'est en lien avec ce qui appartient aux autres ou avec leur situation, qu'on est désintéressé face à ce que l'autre a pour ne pas l'avoir nous-mêmes. Mais on comprend par contre que le désintéressement est intolérable quand il s'agit de notre conjoint. Ici aussi, comprenez bien qu'il s'agit d'un désintéressement de cœur et pas d'un manque d'intérêt pour un hobby de son épouse ou de son mari dont vous êtes au courant mais qui ne vous branche pas. On ne parle pas de ça, évidemment. Être jaloux comme marque d'amour, ce n'est pas enfermer la personne sous son contrôle, par contre. C'est entourer la personne d'un amour bienveillant qui ne tolère pas de rival dans la vie conjugale. Alors, moi, je suis encore loin de l'amour parfait. Je cherche à progresser avec mon épouse. Et je veux progresser. pour aider à comprendre, si je vois Marlise parler avec des gars, les aider, leur donner un Dominus Providebit, etc., mais je suis heureux qu'elle puisse avoir de bonnes relations avec eux. Mais si je vois qu'un homme entre dans des lieux intimes ou qu'elle lui dit des choses qu'elle ne dirait qu'à moi, alors là, je peux devenir très ferme. Mais ce n'est pas contre Marlise. C'est pour préserver notre relation. Par rapport au couple, attention, il ne s'agit pas d'être rongé lorsque votre conjoint parle à un frère ou une sœur dans la foi, ou un collègue ou une collègue de travail. Il est bon d'avoir des relations saines avec les personnes du sexe opposé. Par contre, si cette relation amène à capturer le cœur et peut conduire à menacer la relation d'amour intime qui est exclusive, même déjà dans la pensée, alors là, la jalousie est saine et montre la force de l'amour. Celui qui dit, et ça on entend dans notre société, hein, que son amour est très grand parce qu'il n'est pas jaloux, lui. Hein, il peut partager son mari ou sa femme dans l'intimité avec d'autres. Parce que son amour est tellement grand. Mais il n'a rien compris à l'amour selon Dieu qui seul est un amour valable, fiable et qui dure. Ceci dit, un amour fort est tel qu'il accueille aussi celui qui revient avec sincérité, comme le Père l'a fait avec le Fils prodigue. Quelques réflexions pour notre relation spirituelle. Voici ce qui est dit dans Jacques 4, 4 et 5. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie » l'esprit qu'il a fait habiter en vous ? Vous savez, l'esprit est le sceau sur notre cœur. Et Dieu veut l'exclusivité. Aimer le monde, c'est ne pas aimer Dieu. Et 1 Jean 2, 15 et 16 le dit très clairement aussi. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. C'est de ce monde-là qu'on parle. Ce n'est pas des gens. Des fois, on dit le monde, on parle des gens. Quand on parle du monde, c'est le monde qui est justement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui est résumé ici dans 1 Jean 2. Et si Dieu nous aime avec jalousie, ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais non, car sachons que personne d'autre ne peut nous faire du bien comme Dieu. Donc quitter cette relation pour nous tourner vers une idole, c'est en fait nous faire du mal. Et ça, Dieu ne le veut pas. C'est pour ça qu'il est un Dieu jaloux. Enfin, c'est un des aspects qu'il est un Dieu jaloux. Il nous veut du bien, tellement de bien, qu'il ne peut pas nous laisser aller dans une direction qui nous fait du mal. Vous savez, spirituellement, la personne à qui nous devons nous attacher avant tout et par-dessus tout, c'est Jésus-Christ, qui passe avant tout, même avant notre conjoint. Jésus-Christ. C'est important de le saisir, ça. Et Jésus nous demandera de prendre soin de nos conjoints, n'ayez pas peur. Il passe avant tout. Et dans nos relations humaines, la personne à qui nous attacher avant tout et par-dessus tout, c'est notre époux, notre épouse. Avant tout, dans nos relations humaines, c'est la personne à s'attacher avant tout et par-dessus tout, même avant nos enfants. Après cet amour jaloux, la Sulamite poursuit avec le feu. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Le feu est quelque chose de fantastique. Il est bon d'avoir du feu l'un pour l'autre dans le couple. Le feu, ça réchauffe, ça éclaire. Et la Sulamite souligne ici que cette flamme de l'amour vient de l'Éternel. C'est la seule mention de Dieu, d'ailleurs, dans le livre. Enfin, il y a même, c'est une abréviation de la mention de Dieu dans ce livre de Cantiques des Cantiques. Mais c'est intéressant de voir qu'elle est ici, dans le lieu où on voit d'où vient l'amour, d'où vient cette flamme d'amour. C'est donc un amour passionné, pur, bienveillant, dont l'étincelle, l'origine, vient de Dieu. Dans le couple, il faut parfois une étincelle pour faire brûler le feu. Ben, cherchez pas le briquet dans votre poche, hein. Ni les allumettes dans l'armoire quelque part. C'est auprès de Dieu que l'on trouve l'étincelle. C'est auprès de Dieu. N'hésitons pas à entretenir ensuite le feu d'amour avec les combustibles de bienveillance, les attentions, les mots d'encouragement et les mots d'amour. Et la question qu'on peut se dire, quand avez-vous entretenu votre feu pour la dernière fois? Et pour les célibataires, jeunes ou moins jeunes, avoir l'habitude d'utiliser des combustibles dans les relations permettra de l'utiliser dans les couples et encourager ceux qui sont en couple, hein, d'être bienveillants, de porter attention, de manifester des mots d'encouragement, etc. Et dans notre relation avec Christ, Dieu a un amour chaud et éclairant à notre égard. Il est chaud et éclairant, comme le feu. Du côté de Dieu, c'est un feu purificateur, un amour qui veut faire grandir, progresser. Si Dieu nous accueille tel que nous sommes, il va toujours nous accueillir tel que nous sommes. N'ayez jamais peur d'aller vers lui. Si Dieu nous accueille tel que nous sommes, il ne va par contre pas nous laisser tel que nous sommes. Il va nous purifier à la flamme de son amour et nous faire progresser. Mais il n'y a pas besoin de dire « je vais d'abord progresser, puis ensuite j'irai vers lui ». Allons-y tel que nous sommes, parce que c'est là que lui va pouvoir œuvrer et travailler. Donc si Dieu nous accueille tel que nous sommes, il ne va pas nous laisser tel que nous sommes, il va nous purifier à la flamme de son amour et nous faire progresser. Et la Sulamite continue en parlant maintenant d'eau qui ne peut pas éteindre ou submerger l'amour. Les grandes eaux, verset 7 maintenant, ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ici, la Sulamite parle d'un amour indestructible qui ne peut ni éteindre ni submerger. Pour ne pas être éteint, il doit être plus étendu que tout ce que les eaux pourraient atteindre. Parce que si les eaux peuvent le recouvrir, ben ça peut l'arrêter. Non, c'est beaucoup plus étendu. Pour ne pas être submergé, il doit être plus grand que les eaux de tous les fleuves. En fait, l'amour pour le conjoint touche tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas de zone où il est exclu, même si un engagement commun n'est pas forcément demandé pour chaque chose que l'on vit, mais il n'est pas exclu. Il n'y a pas de domaine où il y a des choses à cacher, non. Chacun, bien sûr, reste une entité propre avec sa personnalité, ses dons, ses responsabilités, mais l'amour lie les conjoints de manière à ce que fait l'un et l'autre a un impact dans la relation. En regardant à Christ, si l'amour était une montagne, aucun déluge ne pourrait la recouvrir. Rien ne peut être aussi grand, aussi profond que l'amour de Christ pour un enfant de Dieu. Rien ne peut être si grave ou si mauvais que Dieu ne peut recouvrir. L'amour de Dieu est si grand. Si notre amour est vacillant parfois, le sien ne l'est jamais. Si notre amour est parfois remis en doute, le sien ne l'est jamais. Si notre amour parfois manque de passion, le sien n'en manque jamais. Si notre amour est parfois mis à mal par les circonstances, le sien ne l'est jamais. Notre assurance est dans l'amour de Christ pour nous et non pas dans notre amour pour lui. N'hésitons donc jamais à nous approcher de lui. Notre assurance est dans l'amour de Christ pour nous et non pas dans notre amour pour lui. N'hésitons jamais à nous approcher de lui. Et la Sulamite termine par les biens en disant au verset, deuxième partie du verset 7, « Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. » C'est vrai qu'en pensant à ce que je viens vous dire maintenant, ça me choque un peu, mais voilà. Donner de l'argent pour l'amour, c'est de la prostitution. Ça peut paraître choquant, mais si un homme dit à sa femme, ça peut être femme à l'homme aussi, hein, si un homme dit à sa femme, après tout ce que j'ai fait, payé pour toi, tu n'es toujours pas contente? N'a-t-il pas cherché à offrir ses biens contre l'amour? Rien d'autre que l'amour peut être offert pour l'amour. Quand vous désirez que votre conjoint vous aime, que faites-vous ? Oh, bien souvent, nous cherchons à rendre l'autre satisfait selon nos critères. Mais agir ainsi, n'est-ce pas dans la direction d'offrir des biens contre de l'amour ? En fait, ce n'est que l'amour désintéressé de soi et intéressé par l'autre qui sera la clé. Un amour désintéressé de soi et intéressé par l'autre qui sera la clé. Vous offrez un magnifique repas à votre conjoint. Magnifique repas. Et il ne vous manifeste pas un émerveillement sans borne, vous exprimant un amour sans limite. Il vous dit juste « merci » et il mange paisiblement. Avez-vous offert ce repas par amour, le laissant libre de le recevoir à sa manière, ou est-ce que vous l'avez offert contre de l'amour ? Ça peut aussi valoir pour un magnifique texte ou une méditation écrite que vous partagez, un joli bouquet que vous offrez, de belles photos que vous montrez, et il ne vous manifeste pas un enthousiasme semblable au vôtre quand vous les avez préparés. Et il y a tant d'exemples. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas important que le conjoint qui reçoit quelque chose ne doit pas exprimer sa reconnaissance. Évidemment, c'est important. Et il peut même exprimer son amour. Mais offrir un bien contre de l'amour, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Continuons donc à offrir avec amour, mais sans une attente. Sans une attente. Et réjouissons-nous de ce que nous recevons, n'hésitant pas à manifester notre reconnaissance, étant intentionnel dans la manifestation et l'expression de notre amour. Et vous savez, quand on réfléchit à l'amour de Christ, l'amour de Jésus-Christ ne peut pas s'acheter. Il est inestimable. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. On ne peut même pas estimer combien il coûterait. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, Paul prie que chaque croyant saisisse un peu plus cela. Il le dit. Regardez avec moi dans Éphésiens 3. Alors, on peut chercher dans nos Bibles, ça fait du bien aussi. Hein. Éphésiens 3, on était toujours dans Cantique, mais on peut aller dans Éphésiens 3, 17 à 19. Donc c'est Paul qui fléchit le genou, qui prie ici. Donc je ne vais pas lire toute la prière, mais juste quelques éléments ici qui soulignent cette notion de l'amour inestimable de Christ. Hein. Il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous en soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour divin, personne ne peut le payer. L'amour divin, personne ne peut le payer, mais tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, repentant de ses péchés, plaçant sa foi dans ce roi à qui il se soumet, peut le recevoir. Personne ne peut le payer, mais tous ceux qui se tournent vers lui peuvent le recevoir. Nous arrivons à la fin de cette prédication, à la fin du Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques nous enseigne des leçons importantes sur la relation conjugale. Et je prie que chaque couple, moi y compris, ne dise pas simplement « Waouh, c'est intéressant, j'ai bien aimé ce développement sur le Cantique des Cantiques » et que rien ne se passe dans la vie de couple. Moi je prie qui est effectivement des vies transformées à l'image de ce livre biblique donné par Dieu pour le couple. Je prie aussi que chaque célibataire ici comprenne l'importance du couple, non pas premièrement pour envier ou désirer être en couple, mais pour protéger et encourager les couples qui existent. Mais je prie bien sûr évidemment aussi pour les célibataires qui aspirent à vivre en couple, qu'ils se remplissent de l'enseignement de ce cantique afin de les avoir intégrés avant même de vivre le couple, pour les mettre en pratique et les saisir ensuite pleinement en entrant dans la vie de couple. Et je prie pour chacun, pour tous, Que ce livre du Cantique nous permette de toujours mieux saisir la relation extraordinaire de Christ avec son Église, de la relation d'amour de Jésus-Christ avec chacun des membres de l'Église ayant reçu une nouvelle nature en transformation par sa grâce. Donc on a la nouvelle nature et en transformation dans notre vie de tous les jours par sa grâce. 1 Corinthiens 13, 4 à 8 nous dit ceci, on le lit souvent quand on parle d'amour. On peut le lire. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Et c'est d'un amour tel que celui-là que Christ nous aime. Et si le texte que Paul a écrit concernant la relation, c'est une relation entre les frères et sœurs en Christ, il est d'autant plus pertinent pour une relation proche d'un mari et d'une épouse, et d'un bien-aimé et d'un époux céleste. Ma prière, c'est que l'amour du Christ exalte nos cœurs et nous pousse à chercher sa présence à chaque instant. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes en même temps émerveillés d'un amour si fantastique que Christ manifeste pour nous. En même temps, nous nous rendons compte de la pauvreté de notre amour. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à ne pas être dans cette situation où nous sommes découragés. Parce que tu ne nous dis pas de regarder à la force de notre amour. Tu ne nous dis pas de regarder à la capacité de notre amour. Tu nous dis de regarder à l'amour de Christ. Et Seigneur, nous voulons regarder à cet amour et te dire merci parce que tout ce livre du Cantique des Cantiques nous a aidé à progresser dans la compréhension d'un amour qui est juste fantastique. Et encore aujourd'hui, avec ces images de sceaux, ces images de feu et tous les autres éléments qu'on a vus, Seigneur, nous montrent que Christ a un amour incomparable, extraordinaire, qui dépasse toute notre imagination. Et nous voulons, Seigneur, tout premièrement, nous approcher de toi, de lui, et nous réjouir de cet amour, nous en nourrir, à nous abreuver, nous avons besoin d'être remplis de cet amour. Personne d'autre ne pourra remplir nos cœurs d'une manière à ce qu'ils soient satisfaits ailleurs que vers toi. Seigneur, nous le savons théoriquement, mais nous te demandons pardon parce combien de fois pratiquement nous venons pas vers toi. Pourtant, nous savons que c'est là que nous avons l'amour, c'est là que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où je ne suis pas venu vers toi. Je te demande pardon pour tous ceux ici qui ne sont pas venus vers toi. Et donne-nous, Seigneur, ensemble de ne pas rester dans cet état de ne pas venir vers toi, mais de courir vers toi et de saisir cet amour qui nous accueille, cet amour qui nous renouvelle, cet amour qui nous encourage, cet amour qui nous fortifie, cet amour qui est d'une jalousie qui nous protège. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette grâce immense. Et j'aimerais te prier de renouveler chacun, Seigneur. Tu connais les situations qui sont parfois difficiles. Tu connais les déserts qui sont parfois très chauds, qui sont parfois très, comme un tunnel très sombre. J'aimerais te prier, Seigneur, de donner la grâce de voir le bout, de se rendre compte que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Aussi dans les couples. Nous te louons, Seigneur, parce que nous pouvons nous en remettre à toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.